Je conservais de fidèles adversaires à gauche et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Gratfouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la ville, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Canu, il est l'heure du Canu Info pour ce nouveau jeudi, ce premier jeudi de novembre. 142 exécutions en Arabie Saoudite, je commencerai avec ce chiffre. Chaque semaine ça progresse, hein, vous remarquerez, et ça va de plus en plus vite. Ce soir nous allons parler de Super Poutine, d'Israël et de Palestine. Nous parlerons aussi par exemple du Liban, nous irons en Turquie, on parlera de grève de journalistes, et puis on parlera beaucoup de la COP21 ce soir. Mais je vous propose d'abord de commencer par Monsieur Poutine, oui, Super Poutine.
Attends, mais je suis déçu, tu parles pas de football, de Valbuena, tout ça ?
Si, mais c'était un peu une surprise pour le cœur de ce Canu Info. Je pensais quand même qu'il était bien de parler effectivement de ce genre de problème. Si vous avez écouté France Info aujourd'hui, vous avez pu remarquer que ça faisait la une, mais dans d'autres médias, c'était exactement la même chose. Alors non, moi j'ai décidé de vous parler de Super Poutine, ouais. Pour commencer. Pourquoi ? Parce que Monsieur Poutine est classé l'homme le plus puissant du monde, selon le classement annuel du magazine Forbes, qui a été publié hier mercredi. C'est la troisième année consécutive pour Monsieur Poutine, d'où le Super Poutine. Alors c'est un classement qui est déterminé par plusieurs facteurs, le nombre de personnes directement influencées, la capacité financière, c'est quand même Forbes, hein, c'est pas l'humanité. La possibilité d'avoir une influence en dehors de son pays. Et donc, Monsieur Poutine rassemble tous ces éléments. Alors, suivent Madame Merkel et Monsieur Obama, suivis en quatrième position du pape François. Notre François à nous, Monsieur Hollande, est en 16e place. Alors,
c'est pas mal.
Oui, tout à fait, parce que vous pourriez rire, mais... Monsieur Sarkozy,
oui.
En 2009...
Il était
56e sur 67.
Ah ouais. Et Hollande, bizarrement, il est populaire à l'étranger. Et pas du tout en France. C'est incroyable.
Alors, il y a des entrées. Monsieur Donald Trump fait son entrée à la 72e place, puisque là, il y a 73 noms dans cette liste cette année. On notera qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ces classements. Mesdames, nous sommes peu influentes. Hein, je vous le dis, il n'y en a que 9 de femmes sur 73. On retrouve Madame Christine Lagarde, la patronne du FMI, bien évidemment, à cette place. Et puis, à une entrée, c'est Madame Hillary Clinton, qui entre dans cette liste. Elle devance Bill Hillary.
Ah bah ouais, parce que maintenant, c'est elle la porte-parole, la tête de liste de la famille pour les prochaines élections américaines.
Et alors, j'ai trouvé un soutien pour Monsieur Poutine. Il s'agit de Monseigneur Luigi Negri, qui, dans un entretien à l'hebdomadaire Panorama, a expliqué qu'il n'y avait pas grand monde qui avait des couilles, mais que Vladimir en avait. Hein,
il a parlé comme ça.
Alors il a dit, il faudrait essayer de désarticuler les sommets de l'EI avec une action vigoureuse et ciblée, mais pour cela, il faut une tête et des couilles. Et le seul à les avoir, je dois le reconnaître avec une profonde honte, est Vladimir Poutine.
C'est un religieux, donc il est hyper machiste, vous avez compris.
74 ans, monsieur, hein, quand même, pas tout jeune non
c'est
plus.
C'est pour ça que lui, il ne pense pas qu'une femme peut faire ça. Il pense qu'il faut un gros macho comme Monsieur Super Poutine.
Voilà. C'est très pour bien. Cette introduction.
Quelle belle intro. Alors, je poursuis avec quelques petites infos sur la situation israélo-palestinienne et notamment l'impact au niveau de l'Union européenne, avec peut-être une bonne nouvelle qui se profile à l'horizon, puisque la Commission européenne devrait adopter, normalement dans les prochains jours, des directives obligeant les produits fabriqués dans les colonies israéliennes à être étiquetés comme tel, c'est-à-dire que ça apparaisse, en gros, ce ne soit plus un produit israélien, mais un produit israélien fait dans une colonie israélienne. Alors, ça énerve beaucoup, beaucoup Israël, cette obligation de les forcer à être un peu transparents sur l'origine des produits importés en Europe. On rappelle que ces colonies, hein, ces zones d'occupation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est sont illégales du point de vue de l'Union européenne, du point de vue de l'ONU, du point de vue de la majorité des pays dans le monde. Hein. Donc voilà, on rappelle aussi qu'en théorie, si l'Union européenne était un peu moins intransigeante, un peu plus intransigeante avec Israël, cela fait depuis de nombreuses années que ça aurait dû être fait. Pourquoi ? Parce que le dernier accord bilatéral signé avec Israël date de 2005. Dans cet accord, Israël est censé respecter les droits de l'homme, est censé ne pas coloniser d'autres pays, est censé ne pas détruire la vie de Palestiniens, etc. Et que sans ça, l'accord pourrait être dénoncé par l'Union européenne. On rappelle que grâce à cet accord, Israël a des accords douaniers favorables. Grosso modo, c'est comme si Israël faisait quasiment partie de l'Union européenne au niveau économique. Les produits arrivent sans être taxés, etc. Or, il a fallu donc au moins 10 ans avant que enfin l'Union européenne pense à mettre un bout de sanction. Alors, une sanction légère, puisque plutôt que de faire un boycott total, ce qui serait légal, puisque effectivement Israël a signé une convention qu'il ne respecte pas. De nombreux assos ont déjà fait pression sur l'Union européenne pour que l'Union européenne respecte l'accord signé. Hein, puisque Israël ne le respecte pas, il faut le dénoncer. L'Union européenne ne veut surtout pas et a besoin vraisemblablement, pour des raisons politiques locales entre autres, de cet accord avec Israël et de bien s'entendre avec Israël. Donc l'idée de l'Union européenne, c'est d'obliger cet étiquetage pour contrecarrer notamment les campagnes de boycott global d'Israël, puisque plein d'ONG appellent au boycott global de tous les produits israéliens, puisque on ne peut pas savoir s'ils sont fabriqués sur le sol israélien ou dans une colonie illégale. Donc, c'est le moyen, finalement, de sanctionner très, 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 très légèrement Israël pour ses actions illégales d'occupation et de vol de territoire. Alors, ça fait réagir notamment le ministre des Finances israélien, qui dit que ça risque d'être un désastre pour l'économie israélienne. Elle s'appelle Tzipi Otoveli plutôt. Donc, qui dit que pour elle, étiqueter, c'est purement et simplement boycotter Israël. Or non, justement, c'est l'inverse. Et c'est là où c'est de la propagande de la part de la ministre des Affaires étrangères, puisque une fois que les produits seront correctement étiquetés, ceux qui sont contre la politique israélienne de colonisation pourront continuer d'acheter les produits israéliens fabriqués légalement, normalement, en respectant les règles internationales, et pourront boycotter seulement la part qui est fabriquée dans les situations illégales. Donc c'est un faux argument, une belle propagande mensongère de la part de Tzipi Otoveli sur ce que va faire l'Union européenne. Et alors, elle a d'autres arguments fallacieux en disant que ça éloigne la paix. Alors, je ne sais pas en quoi le boycott éloigne la paix. On rappelle que c'est grâce à ça que l'apartheid, en partie, a été, que le régime est tombé, hein, suite au boycott quasi général des pays, sauf d'Israël. Ah, bah ouais, on se retrouve, parce qu'Israël soutenait la politique raciste, hein, du gouvernement sud-africain. Ceci explique cela, bien évidemment. Donc voilà, Tipeee Autovelli, il va avec pas mal de mensonges, notamment en disant, et je cite cette dernière phrase qui est assez impressionnante, « Nos amis européens doivent bien se rendre compte qu'au moment où le terrorisme est le fait uniquement de la partie palestinienne, ceci n'est pas les moyens de promouvoir la coexistence. » Alors, bien évidemment, le terrorisme n'est pas dû simplement aux Palestiniens, comme elle le dit. On rappelle que le terrorisme, c'est les actions qui imposent la terreur, pas simplement les quelques agressions au couteau, il y en a encore une aujourd'hui de la part de Palestiniens qui sont désespérés, mais c'est toute une politique terroriste de la part d'Israël, de faire peur, de terroriser les Palestiniens, les paysans palestiniens qui peuvent plus récolter leurs olives, les habitants d'Hébron qui peuvent plus vivre normalement. La politique terroriste, elle est mise en place par Israël, et effectivement, quelquefois, il y a des Palestiniens qui, désespérés, agressent des Israéliens, notamment à Jérusalem. Il faut quand même remettre les choses à leur échelle. Donc voilà, on notera quand même que Israël a lancé une grosse campagne diplomatique pour essayer de faire pression. Il faut se rappeler que cette proposition, elle a déjà couru un petit peu au niveau des instances européennes en 2013, et qu'il y a eu différentes pressions, notamment de John Kerry à l'époque, le secrétaire d'État américain, et aussi d'Israël, et les élus avaient reculé, ce qui était quand même honteux, les élus ou pas les élus, parce que c'est la Commission européenne, du coup c'est pas élu. Donc voilà, ce qu'on notera quand même, c'est que grosso modo, ils sont contre la transparence. Hein. Ils se prétendent soi-disant une belle démocratie, mais dès qu'on fait des choses pour la liberté, pour la transparence, puisque pourquoi le public n'aurait pas le droit de savoir où les produits sont fabriqués? Et non, ils sont contre l'idée de transparence, de liberté, tout ce qui s'ensuit. Voilà, c'est une affaire à suivre, on verra ce qui se passe dans quelques temps, si la mesure est vraiment adoptée par la Commission européenne, ce qu'on espère beaucoup. Et puis, toujours, il faut terminer sur Israël-Palestine, en ce moment, Israël fait beaucoup de lobbying aux États-Unis, notamment pour essayer d'obtenir une nouvelle aide militaire plus importante. Il faut savoir qu'Israël, actuellement, a à peu près 3 milliards de dollars donnés par les États-Unis d'Amérique pour notamment les aides, enfin, pour l'armée, hein, puisque c'est une aide militaire. Là, il y a une grosse campagne pour que ça soit porté à 5 milliards. Ils ont trouvé une excuse. Ils disent, bah, maintenant que les sanctions contre la République islamique d'Iran, pour citer les termes utilisés par les gouvernants israéliens, ça va les obliger à avoir plus d'actions contre l'Iran, donc demander plus de moyens, donc il va falloir leur donner plus d'argent, notamment sur ce qui se passe au sud du Liban, hein, puisque d'après eux, comme ça, l'Iran va pouvoir aider encore plus le Hezbollah, ils entendent ça. Bon, je sais pas pourquoi ils pourraient aider plus le Hezbollah une fois que les sanctions sont levées, puisqu'ils aident déjà beaucoup le Hezbollah, mais ça semble beaucoup de la propagande, donc ils travaillent en sous-main. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou doit rencontrer le président Barack Obama la semaine prochaine. Vraisemblablement, ils ne vont pas obtenir tout ça, mais ils vont quand même obtenir sûrement une belle rallonge pour les aider à lutter contre les méchants terroristes palestiniens, si on suit les propos qu'entonne la majorité du gouvernement israélien.
Alors, je voudrais vous parler de cette belle rencontre qui se tient aujourd'hui dans notre beau pays. Monsieur Nazarbayev, président...
Ah. Attends, t'es sûr que c'est président, c'est pas dictateur?
Non, président du Kazakhstan. Je te rappelle qu'il a été élu en avril dernier pour un cinquième mandat avec 97,7% des votes favorables.
C'est décevant qu'il fasse pas 100% ce petit président dictateur quand même.
C'est sans discontinuer depuis 1991 hein, quand même, il faudrait le souligner. Donc, monsieur le président est en France ce jeudi. Il a rendez-vous avec notre François, monsieur Hollande à l'Élysée. Hein, ça se passait là en fin de journée. Et puis ce soir, il est l'invité d'un dîner en son honneur. On sort donc la porcelaine, hein, les petits plats dans les grands pour accueillir un monsieur avec qui on peut parler un petit peu du pétrole.
Du gaz,
de l'uranium, enfin des beaux sujets, quoi. Alors, Est-ce que le cas de Monsieur Obliazov va être sur la table des discussions, même un peu officieusement? Il y a des organisations comme Amnesty International qui le demandent. Alors je vous rappelle un petit peu l'affaire Mukhtar Obliazov, 52 ans, ancien ministre de l'énergie, aujourd'hui opposant à Monsieur Nazarbayev, avait fui le Kazakhstan en 2009. Il est accusé d'avoir détourné près de 6 milliards d'euros de la première banque du pays qu'il dirigeait à l'époque. Donc on n'est pas tout à fait de la même classe, hein, soyons clairs. Partout où il est passé, effectivement, il a quelques affaires judiciaires. Il était visé par une notice rouge d'Interpol. Il a été arrêté en France le 31 juillet 2013. Et donc, il était emprisonné. Il est emprisonné depuis 2 ans. Et là, il est à la prison de Fleury-Mérogis. Alors, il faut se souvenir que les notices rouges d'Interpol, elles sont plutôt utilisées par les pays qui sont autoritaires. C'est-à-dire...
Oui, parce qu'il y a plein de dictatures, hein, dans Interpol.
Ah oui, et donc la Russie, par exemple, on fait quand même un pays autoritaire, on fait bon usage. L'Azerbaïdjan, le Vietnam, enfin, il y a beaucoup de pays comme ça qui passent beaucoup par cette notice rouge. Donc, c'est pas toujours bon signe. Hein. Alors, Monsieur Nazarbayev déteste maintenant son ancien ministre, avec qui pourtant il était donc très très copain. Alors, la France a donc décidé de répondre favorablement aux demandes d'extradition. On le sait déjà depuis le mois de mars, puisque la Cour de cassation avait confirmé les demandes d'extradition. Ça faisait suite à une décision de la Cour d'appel de Lyon, qui avait été validée en octobre 2014. Et puis, finalement, le gouvernement de M. Valls a mis 5 mois pour signer ce décret d'extradition. Ça a été signé mi-septembre. Mais c'est signé. Il semblerait que donc tout le monde ait pensé que ce n'était pas bien grave. Alors, il ne va pas être envoyé au Kazakhstan. Non. Parce que le Kazakhstan n'a pas de collaboration pour extrader ses ressortissants avec la France, mais avec tout plein d'autres pays. Donc, elle a fait appel à d'autres pays. Elle a été tapée aux portes et a été demandé qui voulait bien faire cette demande à sa place. Et qui a répondu favorablement?
La Russie.
Exactement.
C'était couru, quoi.
C'était couru, hein. Ouais. Alors, quand même, je vous le disais, Amnesty International s'inquiète, mais ce sont pas c'est pas la seule organisation. En disant, bon, on va quand même renvoyer un homme qui a aujourd'hui un opposant, quoi qu'on pense de sa situation et de ses finances, en Russie a mis avec le Kazakhstan. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un peu des risques? Alors, il faut savoir que la Cour d'appel de Lyon avait mis un petit peu des barrières. Vous savez, ils avaient essayé de dire à la Russie, ok, mais il ne va pas falloir qu'il y ait de travaux forcés.
Super.
Ah bah oui, tu rigoles, mais enfin, c'est la vérité. Il va pas falloir non plus le réextrader au Kazakhstan, c'est-à-dire qu'il va falloir le garder. Sauf que il s'est passé plein de choses et que la Russie a voté une loi qui permet de mettre en avant sa constitution. Donc les droits de l'homme, la Russie, elle s'assoit dessus. Je vous le dis, mais alors elle s'assoit dessus. Comme ça, hop, on oublie. Donc tout ça, c'est du blabla. Alors, toutes les ONG s'inquiètent, en fait, hein, qu'ils soient bien renvoyés au Kazakhstan. Le Kazakhstan, je vous rappelle, hein, c'est quand même de la torture, c'est des enlèvements, des disparitions, qui fait pas forcément bon y vivre quand on est un opposant, quel qu'on soit. Hein, voilà. Il faut savoir que M. Nazarbayev a tout essayé, quand même, puisqu'il a fait des demandes un petit peu de partout dans le monde pour extrader des proches. Alors, il a même essayé de ramener la femme et la fille. Ils sont allés les chercher en Italie, un peu de force. Ça a fait scandale, finalement. Le Kazakhstan a rendu la famille en Italie. Mais les autres pays ont refusé d'extrader les proches de M. Obliazov. Pas la France. C'est bien ça, finalement, qui est gênant dans cette affaire. C'est que la Cour d'appel, la Cour de cassation, tout le monde dit qu'il n'y a aucun problème avec la Russie, que c'est un chouette pays. Finalement, c'est ça, le débat, le discours, excusez-moi, il n'y a pas de débat, justement. Et ça arrange la France, c'est-à-dire que finalement, la France, elle fait comme elle veut, quand ça l'arrange. Quand elle veut mettre un veto, elle dit non, mais par contre, à d'autres moments, dans certaines circonstances politiques et financières, on se débarrasse de quelques personnes qui pourraient être gênants. Bon, voilà, c'est la situation actuelle. Alors, le Kazakhstan, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'avec la France qu'ils sont amis, hein, puisqu'ils ont signé mardi des gros contrats avec le Royaume-Uni. On parle de plus de 4 milliards d'euros. Donc voilà, le Kazakhstan est finalement l'ami de l'Europe. Il n'y a pas de souci.
Alors, on va parler un petit peu du Liban. On va aller, on n'en parle pas souvent. Alors aujourd'hui, il y a une très mauvaise nouvelle puisqu'il y a eu un attentat dans le sud Liban. Il y a des attentats, j'allais dire régulièrement. Non, ces dernières années, la situation était plutôt calme, même si depuis la guerre en Syrie, la situation est redevenue un peu compliquée au sud Liban avec différentes attaques. En tout cas, aujourd'hui, un kamikaze a pénétré dans la salle, dans une salle, au moment où se tenait une réunion du comité des oulémas de Kalamoun. Donc les oulémas, hein, c'est des cheikhs, c'est-à-dire des dignitaires religieux, là pour le coup c'était syrien, qui se réunissaient et ça, donc ils ont tué, enfin le kamikaze a tué 5 personnes et il en a blessé 6 autres. Alors d'après l'agence officielle libanaise, le président du comité, le cheikh Othman Mansour, a été assassiné. L'adjoint du comité, du président du comité, Omar Al-Halabi, a été également tué. Donc voilà, ils ont atteint les têtes. Vraiment, le terroriste était bien renseigné. Il est arrivé à faire mourir ceux qu'il visait. Alors, faut savoir que ce comité des oulémas s'occupe donc des questions bien évidemment religieuses, mais aussi de l'aide aux réfugiés qui se trouvent dans cette région qui est assez proche de la Syrie. Hein, on se situe à Ersal, très exactement. Alors Ersal, c'est un peu compliqué parce que c'est au sud Liban, dans la Bekaa. Donc la Bekaa, vous savez, c'est la vallée qui est tenue, on va dire, par le Hezbollah. Le Hezbollah, ils sont chiites. Or, le comité des oulémas et Ersal, en l'occurrence, ils sont sunnites. Hein. Donc il y a la guéguerre sunnite-chiite, même si, pour l'instant, on n'a pas d'idée sur qui a fait cet attentat. On voit pas forcément le Hezbollah à faire un attentat en ce moment à cet endroit-là contre les sunnites, mais on n'est pas à l'abri non plus de surprises. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'infos. La justice se met en place, un juge a été nommé, etc. Faut savoir aussi que Ersal, il y a eu dans cette localité, il y a eu pas mal d'affrontements, notamment en 2014 entre l'armée officielle libanaise et des djihadistes qui venaient notamment de Syrie, hein, des djihadistes de l'État islamique. Le Hezbollah est intervenu dans le sud. Alors, voilà, si on suit les propos des politiques occidentaux, le Hezbollah c'est les gros méchants, etc. On va pas défendre le Hezbollah, bien évidemment, dans cette émission, parce que c'est quand même avant tout des religieux machistes, homophobes et tout ce qu'on veut. Sauf que, effectivement, contre les djihadistes de l'État islamique, qui sont sunnites, le Hezbollah, il a été là pour aider l'armée officielle libanaise à empêcher justement trop d'incursions, voire les incursions tout court, de l'État islamique, des djihadistes, au Liban. Donc voilà, la situation est très compliquée dans la Bekaa, et ce nouvel attentat ne présente rien d'engageant pour l'avenir. On va attendre d'avoir peut-être des infos sur qui a organisé cet attentat. Personne ne l'a revendiqué à l'heure d'aujourd'hui. Donc à voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Alors, faut savoir que, bon, j'ai parlé de 2014, mais en fait, ça fait un petit moment que dans ce coin-là, la situation est très tendue, des bus ont déjà été attaqués, enfin voilà, c'est une région chaude, on va dire, comme l'est tout le Liban, mais le sud Liban plus particulièrement. Et pour preuve, ce qui s'est passé aujourd'hui, un jeune Libanais de 20 ans a été enlevé, arrêté, vous utilisez le mot que vous voulez, grosso modo enlevé par l'armée israélienne. Donc on est dans le sud Liban, avec la frontière israélienne, là où se trouve la FINUL, hein, la force d'intervention, ça veut dire la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Donc vraisemblablement, ce Ali Mohamed Hassi est un jeune homme donc de 20 ans qui souffre de retard mental, qui serait approché de la frontière. Les militaires l'auraient incité à venir et ils l'ont enlevé. Alors on n'a pas le pourquoi du comment. Ça se trouve, ça va être démenti. Ça va être démenti parce que l'armée va le rendre en se rendant compte que c'était juste un quelqu'un qui a des problèmes mentaux. L'armée israélienne, on aura plus d'infos, je pense, dans les jours qui viennent. C'est pas forcément très très grave ce qui vient de se passer, mais c'est symptomatique de ce qui se passe depuis de nombreuses semaines. C'est-à-dire que ça fait des semaines et des semaines, voire des mois, que l'armée israélienne s'incruste de plus en plus au sud Liban, que l'espace aérien libanais est violé très régulièrement, chaque semaine quasiment, par l'armée israélienne et que voilà, la situation est tendue dans le sud de par essentiellement les actions de l'armée israélienne. Donc voilà, c'est juste pour rappeler que l'armée israélienne, c'est pas simplement l'armée qui vient occuper des parties de la Cisjordanie, c'est aussi une armée qui continue de se mêler, d'essayer de faire des choses sur le sud Liban, notamment contre leur ennemi qui est le Hezbollah. Alors je vais continuer avec en restant dans la région, même en se rapprochant un petit peu de l'Europe, avec le pays qui fait charnière, on va dire, entre le Moyen-Orient et l'Europe, c'est-à-dire la Turquie. Donc vous avez tous et toutes appris la victoire assez triste, hein, de notre point de vue, des islamo-conservateurs. C'est le terme utilisé pour décrire l'AKP, grosso modo, c'est de la droite ou de l'extrême droite religieuse. C'est entre la droite et l'extrême droite religieuse. Donc Recep Tayyip Erdogan, président de la République, et son parti ont gagné ces élections contre toute attente, hein, puisqu'ils sont redevenus majoritaires. Vraisemblablement, tout le monde dit que c'est les Turcs ont eu peur de l'instabilité, voire de l'alternance. Donc, ils ont préféré voter pour le liberticide Erdogan, l'anti-kurde Erdogan, celui qui déstabilise la région, quand même, faut le dire, notamment en ayant aidé directement ou indirectement l'État islamique. Hein, en ayant notamment rendu sa frontière ultra poreuse il y a quelques temps, même si l'attitude semble changer un petit peu aujourd'hui. On notera la réaction de Selahattin Demirtas, qui est le chef de file de l'HDP. Vous savez, c'est ce parti pro-kurde qui avait eu un peu plus de 10% des voix il y a 5 mois lors des dernières élections et qui avait été le grain de sable, hein, dans la machinerie de l'AKP pour essayer d'accaparer tous les pouvoirs. Ils ont pas mal reculé. Ils ont perdu 1 million de voix. Ce que disait Selahattin Demirtas, c'est qu'effectivement, je cite, nous avons perdu 1 million de voix, mais nous sommes restés debout face au massacre et au fascisme. Au massacre, hein, il laisse entendre qu'effectivement, les attentats qui ont eu lieu contre eux, hein, contre les Kurdes et contre les pro-paix, on va dire, sont liés ou facilités par le pouvoir en place de l'AKP. Et puis, sur la liberté de la presse, les coups continuent de tomber, hein, puisqu'on a appris que 71 journalistes du groupe IPEC Media avaient été virés manu militari suite à la reprise en main de ce média autonome, indépendant, privé turc, qui a été pris de main de maître, voire par la force, fin octobre, par l'État. Alors grosso modo, il y a 58 collaborateurs de Burgun TV et puis de plein d'autres médias qui sont regroupés par ce groupe-là, IPEC Media, qui ont été refoulés de leur rédaction donc le 3 novembre. Et les 13 derniers, pour faire ce chiffre de 71, ils sont eux à Ankara et pas à Istanbul. Eux, ils ont appris leur mise à pied le soir même. Donc voilà, donc le travail des médias et de ce média-là et de ce groupe-là particulièrement a été interrompu donc manu militari par les interventions policières. En fait, ce qui s'est passé, c'était assez marrant, c'est qu'ils étaient un média anti-gouvernement, grosso modo, d'opposition. Le 28 octobre, un assaut policier vient prendre la main de ce média et le lendemain, le média réémet avec une ligne pro-gouvernementale. Hein ? C'est beau la démocratie turque. Alors aujourd'hui, c'est difficile de dire que c'est totalement une démocratie. Enfin, je ne sais pas s'il y a un pays dans le monde qui est totalement démocrate, mais là, on s'en éloigne quand même dangereusement. On pourrait citer d'autres cas, par exemple, deux journalistes de l'hebdomadaire Nokta ont été arrêtés le 2 novembre dans la soirée pour donc d'abord placés en garde à vue pour incitation au crime. C'est grave hein, quand même, incitation au crime. Et le lendemain, un tribunal a ordonné leur incarcération, cette fois-ci, pour incitation à la révolte armée contre le gouvernement. À l'heure d'aujourd'hui, donc il y a 3 jours, c'est arrivé il y a 3 jours, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont toujours en prison. Alors pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait ces deux journalistes de cette revue Nokta? En fait, c'est dans le numéro 24, celui qui est paru lundi, il titrait « Lundi 2 novembre, le début de la guerre civile en Turquie ». Alors, il faut savoir que le journal a été imprimé avant les résultats des élections, il a été imprimé le vendredi. Hein. Donc voilà, il y a tout un article sur ce qui peut se passer avec cette prise de pouvoir, de, avec en plus en, sur la une, hein, la photo de Recep Tayyip Erdogan. Et donc ça n'a pas plu au gouvernement qui a arrêté. Il faut savoir qu'actuellement, il y a au moins 5 journalistes proches de cette confrérie Gulen, puisqu'ils sont proches de Gulen, groupe politique opposé à Monsieur Erdogan, pourtant du même bord religieux, mais opposé, qui subissent la fronde de l'État autoritaire turc. Et puis, une pour l'instant, peut-être provisoire, mais on l'espère définitive, bonne nouvelle pour Fazil Say. Donc Fazil Say, c'est un pianiste qui est connu internationalement et qui fait des tournées partout, qui avait été dans un premier temps condamné à 10 mois de prison avec sursis pour insulte aux valeurs religieuses. Oui, on n'a pas le droit de critiquer les religions en Turquie, et notamment l'islam, c'est pas facile. On a encore le droit à Radio Canu, on ne sait pas pour combien de temps à Radio Canu, mais pour l'instant, le Canu Info a encore le droit d'être rationaliste et de véhiculer ce genre d'informations. Donc, qui dit qu'effectivement, c'est quand même pas croyable qu'il n'y ait aucune liberté d'expression, aucune liberté de critiquer les religions en Turquie. Ça s'est beaucoup détérioré. Avant, c'était bien évidemment un pays dans lequel la critique de la religion était possible. Elle ne semble plus l'être aujourd'hui. Alors, il avait été donc condamné en 2013. Ça avait fait réagir pas mal de monde. Et là, c'est la cour d'appel qui a dit, qui a annulé la condamnation. Alors, il peut y avoir encore la première instance qui pourrait être saisie, à voir donc s'il est enfin totalement innocenté. Donc c'était suite à des infos qu'il avait données sur internet critiquant la religion musulmane. Donc 3 infos très exactement, dont 2 qui sont assez drôles quand même, puisque il n'avait pas dit l'islam c'est pourri, enfin un truc comme ça. Il avait repris des propos d'un poète persan du 11e siècle qui parlait de la religion. Et ces 2 propos de Omar Khayyam, très connu, un grand poète persan donc du 11e siècle, est considéré par la justice, par l'AKP, par tous ces gens comme des propos attaquant l'islam. Alors oui, c'est des propos qui sont progressistes, hein, on pourrait dire, mais voilà, c'était juste pour dire que c'était quand même, enfin, la religion en tant qu'outil pour supprimer la liberté de penser, la liberté de parole, est un outil qui peut s'avérer quand même très efficace quand on est à la tête du pays et qu'on véhicule cette idéologie religieuse très forte, on va dire, pour l'AKP, à suivre donc pour savoir si Fazil Say est enfin définitivement acquitté et que la liberté de parole, sa liberté de parole, est autorisée. Pour les autres, c'est pas sûr. C'est même plus sûr du tout.
Alors, je voudrais saluer quelques personnes ce soir, quelques messages très personnels. Je vais commencer avec Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Vous savez, cette ministre du Travail qui veut réformer en 2 ans notre code du travail, je dis bien notre.
Ouais, alors elle travail. Veut, on lui a dit de réformer le code du travail.
Ouais, bah elle a l'air motivée, hein. Écoute, alors bon, elle s'est fait tacler aujourd'hui sur les CDD, les renouvellements. Alors faut dire que bon, elle était dans l'émission de BFM TV de Jean-Jacques Bourdin, qui est un spécialiste de l'attaque
bas de gamme.
Pas de gamme pour ses invités.
Alors là, ça tombe sur un truc qui est intéressant, mais on va pas défendre Bourdin, qui est une mauvaise image de la presse française.
Ouais, non, c'est pas terrible ce qu'il fait. Bon, toujours est-il qu'elle a pas su répondre, donc c'est vrai que quand on veut réformer le code du travail, peut-être qu'il faut commencer déjà par la base. Savoir un peu qu'il y a un CDI, un CDD, qu'il y a les 35 heures. Alors certes,
c'est les 35 heures, elle connaît.
Ouais, elle connaît.
Parce qu'on lui a dit qu'il fallait pas.
Alors bon, elle s'est expliquée en disant qu'il a voulu faire le buzz, Monsieur Bourdin, elle n'a pas tort, et qu'elle est ni la première, elle ne sera pas la dernière, elle n'a toujours pas tort.
Il faut savoir qu'elle a un désavantage par rapport à Bourdin, c'est que c'est une femme.
Aussi.
Pour le coup, il est
les médias,
très agressif, hein, sur les femmes.
Voilà. Alors donc, c'était le petit truc de la journée, hein, quand même, mais c'est vrai que Madame la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, tout ça, il va falloir quand même un petit peu rentrer dans le vif du sujet et se mettre un peu à potasser. Va pas falloir compter que sur les experts pour arriver à quelque chose. Bon, à vrai dire, on sait pas bien ce qu'ils vont nous laisser dans ce code du travail, hein, a priori, une durée légale. peut-être le droit d'être payé aussi. C'est un peu le débat qu'on a eu avec Laurent, se dire que peut-être quand même on aurait le droit d'être toujours payé à la fin. On n'est pas bien sûr. En tout cas, je voudrais aussi saluer quelqu'un d'autre, c'est Monsieur Berger de la CFDT. Vous avez peut-être lu le canard enchaîné de cette semaine. Il est donc attaqué pour des histoires de billets d'avion, surclassement, tout ça. Il est attaqué.
C'est normal, il est pote avec le patronat. Le patronat le remercie.
Du copinage avec le patron. Bon.
Ah bah attends.
Et ben moi, j'ai trouvé du soutien et en plus des démentis. J'ai trouvé ça sur le Figaro.fr. Monsieur Berger, sache que tu es soutenu par le Figaro qui t'a fait un article de soutien élogieux.
Comme quoi la CFDT est vraiment un syndicat gangréné. Voilà.
Alors ils s'en prennent au canard en disant que le canard attaque les syndicalistes comme d'habitude. Alors c'est vrai qu'on est habitué avec le canard enchaîné à avoir des attaques sur le syndicalisme assez fréquentes. En même temps, il y a des trucs qui se passent dans les syndicats, faut bien aussi que ça se sache. Hein. On peut faire aussi des choix, aller dans un syndicat plutôt qu'un autre. Donc Monsieur Berger est soutenu donc par le Figaro qui explique qu'en fait cette montée en puissance dans l'avion s'est faite automatiquement. Donc ils prennent sa défense et que de toute manière, s'il est attaqué, c'est à cause de ses déclarations
pro-patron.
À cause de cette affaire Air France, c'est-à-dire que il avait dit que c'était pas le visage du syndicalisme, que c'était inacceptable, et donc pour le Figaro, Monsieur Berger paye ses points de vue, son opinion, voilà.
De la même manière que c'est par ce point de vue et son opinion, à mon avis, qu'il a obtenu ce surclassement, hein, parce qu'il a soutenu. C'est quand même un syndicaliste qui soutient plutôt la direction d'Air France qui licencie. Plutôt que les syndiqués et les travailleurs. Donc, bon, on a l'habitude que la CFDT signe tous les trucs avec le patronat ou presque, hein, mais...
Mais c'est quand même la honte, là, c'est la honte d'avoir du syndicalisme. Un tel article sur le Figaro.fr. Franchement, c'est la honte, Monsieur Berger. Je vous le dis, c'est la honte.
Voilà. Alors, nous ne sommes pas syndiqués à la CFDT, c'est ça ?
C'est ça. Alors, je vais continuer avec une lutte. Je vais vous parler de la grève des journalistes reporters d'images à France 2. Elle dure maintenant depuis plusieurs jours. Ça a commencé mardi. Elle a été reconduite hier et aujourd'hui. Cet après-midi, il y avait une réunion avec la direction. Je n'ai pas eu les résultats avant de rentrer dans la cabine de Radio Canure. Alors, de quoi ils se plaignent les journalistes reporters d'images ? Alors, déjà, ils trouvent qu'il y a des engagements un peu flous hein, de la part de la direction de l'information sur leur participation au magazine d'information de la chaîne, comme envoyé spécial, complément d'enquête. C'est-à-dire qu'ils savent pas bien, en fait, comment globalement ils vont bosser là-dessus. Sur les embauches aussi. Parce qu'alors, ils rappellent qu'ils sont pas assez nombreux. Ils estiment des besoins à 14 postes et la direction propose 7. Alors évidemment, c'est la moitié, mais non seulement c'est la moitié, mais en plus c'est des embauches de CDD en CDI. Donc c'est un peu facile, c'est-à-dire pas de nouveaux, pas de nouvelles. Hein. Donc ils tiennent aussi à faire savoir qu'il y a pas mal de problèmes de stress, ce qu'on appelle aujourd'hui aussi du burn-out, il y a beaucoup d'arrêts maladie, et que les missions partent dans tous les sens, qu'il y a des amplitudes horaires souvent très importantes, parfois jusqu'à 13 heures, et que ça augmente, hein, que c'est de plus en plus régulier et continu. Ils estiment aussi qu'ils n'ont pas été écoutés, c'est-à-dire qu'ils souhaitent que le chef de service ait le titre de rédacteur en chef, comme c'était le cas auparavant, afin de peser hein, dans les choix d'information. Ça a été refusé hein, par la direction. Et puis, ils interpellent sur autre chose, hein, qui est, à mon avis, aussi important. Ça concerne l'utilisation des TV UPAX. Alors, c'est des boîtiers de transmission 3G, 4G, et eux, ils disent, nous, on veut un moratoire. On ne sait pas ce que ça fait sur la santé, vous nous demandez d'utiliser plus que ces systèmes-là. On veut vraiment ce moratoire, il y a des risques. Là aussi, la direction, elle a opposé un refus. Voilà. Donc, ils se retrouvent face à un mur, il faut bien le dire. C'est pour ça que cette grève, elle est très suivie. Elle est suivie à 90% des grévistes. Ils sont très contents parce qu'en fait, le stock d'images va commencer à s'épuiser. Ouais. Ils ont envahi le plateau de 20 du 20h. Voilà. La seule chose qu'ils, quand même, font savoir, c'est que Madame Ernott, ben, un dialogue social quand même un peu particulier, hein, parce que le mur, c'est pas facile quand même pour discuter dans le cadre d'un conflit social. Bon, voilà, là je vous dis, allez chercher hein, ce qui s'est passé, cette réunion qui avait lieu à partir de 15h, pour voir si finalement ils vont reprendre le travail, ou si ben, ils vont rester en grève, parce qu'ils ont l'air quand même sacrément en colère.
Alors on va parler un peu d'environnement maintenant et faire un spécial greenwashing et COP21. C'est assez lié, donc le greenwashing, le mot français, je vous rappelle, c'est éco-blanchiment.
Ça s'appelle vert fluo aussi, non, chez nous.
Ouais. Donc, on va parler d'abord de BNP Paribas. Alors, la question qu'on se pose, hein, c'est est-ce que les banques sont les nouvelles amies du climat ? Parce que ça communique beaucoup du côté bancaire sur on est beau, on est grand, on est fort, on soutient le climat, la défense du climat, on soutient plein de choses. Bon. Sauf que c'est pas si simple. Certes, de plus en plus de banques s'engagent à réduire leur soutien à l'industrie du charbon, qui est la plus polluante des industries fossiles. Parmi elles, notamment, on a noté Bank of America, Citigroup, Crédit Agricole et Natixis ont fait un effort récemment, très récemment. Donc, il y a un léger progrès. Mais globalement, de façon générale, la finance continue à soutenir massivement les énergies fossiles, malgré des grands discours qui mettent en avant, soi-disant, sa contribution à la lutte contre le changement climatique. Alors, il y a un rapport qui a été publié aujourd'hui. On est à peu près à un mois, un peu moins, du sommet sur le climat de Paris, qui s'appelle le COP21. Et ce rapport s'intitule « Banque française, quand le vert vire au noir ». Donc ça a été fait notamment par l'ONG Oxfam France, les Amis de la Terre et plein d'autres choses. Grosso modo, ça dénonce l'écart abyssal, disent-ils, entre les soutiens des principales banques françaises aux énergies fossiles et le petit peu qu'elles donnent, les miettes qu'elles donnent, qu'elles investissent dans les énergies renouvelables. Faut avoir en tête, hein, que si les banques faisaient des choix différents, ça change toute la donne, puisque tout le financement se fait par à travers les banques dans l'industrie. Donc, elles sont le rôle principal, voire le rouage principal des investissements aujourd'hui dans l'énergie. Alors, elles font pourtant beaucoup de propagande sur la transition énergétique. Vraisemblablement, c'est pas vrai. Alors, si on suit le rapport qui a été fait à partir d'analyses d'un cabinet qui s'appelle Profondo, c'est un cabinet d'études néerlandais indépendant qui a comparé les soutiens de 75 banques internationales, dont les 25 plus importantes, dans les énergies fossiles, c'est-à-dire pétrole, gaz, charbon, et leur investissement dans les énergies renouvelables, c'est-à-dire éoliennes, solaires, géothermiques. Tout ça entre janvier et décembre de l'année dernière, c'est-à-dire en 2014. On ne se pose pas la question du nucléaire, hein, c'est hors rapport le nucléaire, voilà, ça n'intervient pas là-dedans. Alors première conclusion, entre 2009 et 2014, soit entre les deux grands sommets en fait sur le climat, c'est les 25 premières banques internationales ont consacré 89 milliards d'euros aux énergies renouvelables. C'est pas mal, 89 milliards d'euros. Par contre, elles ont mis 947 milliards d'euros dans les énergies fossiles. Ah merde, 9,5 fois plus. Ah oui, on comprend pourquoi on se pollue de plus en plus. Alors, si on regarde les cinq principales banques françaises, c'est-à-dire BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, la Banque Populaire Caisse d'Épargne et le Crédit Mutuel CIC, alors elles, on va dire les banques, elles ont accordé 18 milliards aux énergies renouvelables. Et combien dans le polluant ? 129 milliards. Alors c'est moins, hein, c'est 7 fois plus pour le polluant et 7 fois moins pour le non-polluant. Donc c'est un peu moins que ce qui se passe au niveau international. Mais c'est quand même pas terrible. Grosso modo, les banques investissent majoritairement dans les trucs qui polluent. Alors si on va plus loin, les trois banques françaises que sont BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, figurent dans le top 15 des banques qui investissent dans les énergies fossiles. Et pourtant, elles nous disent le contraire. Alors, l'exemple, le rapport montre l'exemple de la propagande liée à la COP21. Par exemple, si je lis ce que dit BNP Paribas au sujet de la COP21, ils disent « Notre responsabilité environnementale, deux points, agir contre le changement climatique ». Belle propagande, beau mensonge, puisque si on regarde les chiffres, BNP Paribas investit 52 milliards dans les énergies fossiles et seulement 6 milliards dans les renouvelables. Le Crédit Agricole, il dit… Ils se prétendent acteurs de la transition énergétique. Ils disent « Notre rôle nous impose d'être moteurs, notamment dans la transition vers une économie plus responsable et plus sobre en carbone. » Ah bah dis donc, vous allez voir, 32 milliards dans les énergies fossiles, seulement 4 milliards dans les renouvelables. C'est un beau mensonge aussi. Allez, dernier mensonge, j'en aurai plein en stock, mais j'en cite que trois. La Société Générale. Ils disent, je cite la propagande de la Société Générale, « La banque est consciente que tous les acteurs économiques ont un rôle à jouer dans la transition vers une économie moins carbonée. » Ah, 34 milliards dans les fossiles, seulement 5 milliards dans les énergies renouvelables. Voilà le beau mensonge, voilà le beau greenwashing, voilà le beau éco-blanchiment, vous appelez ça comme vous voulez, de la propagande des banques Donc voilà. Et alors, le pire étant quand même BNP Paribas. Pourquoi c'est le pire? Parce qu'en plus, ils disent, on est un sponsor de la COP21. Regardez, on fait un truc bien. On rappelle que la majorité des sponsors de la COP21 sont les principaux pollueurs, hein, ou collaborateurs de la pollution dans le monde. Donc voilà, c'est, je pourrais vous citer plein d'autres chiffres. Il y en a à l'appel. Donc, il y a une pression qui a été mise sur BNP Paribas. Alors, on n'est pas sûr que ça marche parce que il y a 53 organisations, dont des organisations relativement importantes comme France Liberté, c'est la fondation de Daniel Mitterrand, comme ATTAC, qui ont envoyé des messages officiels à BNP Paribas, leur demandant d'annoncer officiellement, puisqu'ils soutiennent la COP21, la fin des investissements dans le charbon. Alors, pour l'instant, pas de vraie réponse. Ils se disent non, mais bientôt on va communiquer sur notre stratégie d'accompagnement à la transition énergétique. Bientôt, on ne sait pas quand. Grosso modo, ils sont pris dans le piège du mensonge. Hein. C'est clair comme de l'eau de roche. Pour citer un lien avec une énergie polluante. Voilà. Alors ils sont nominés dans les prix Pinocchio. Je parlerai tout à l'heure. Prix Pinocchio, c'est les prix qui sont remis par des ONG et c'est en fait le public qui vote, hein, sur Internet. Les ONG ont présélectionné des entreprises qui respectent pas l'environnement et dans la catégorie greenwashing, il y aura BNP Paribas. Il y en aura d'autres. Voilà, donc continuons de lutter contre ces banques. C'est intéressant ce rapport, hein, ça redémontre, ça rappelle que si toutes ces banques qui soi-disant soutiennent les énergies renouvelables le faisaient réellement, c'est-à-dire elles, du jour au lendemain, elles disent on investit à 100% dans les énergies renouvelables, ça couperait tous les projets pollueurs de la planète. Parce que c'est ces banques qui financent tous les gros projets pollueurs de la planète. Et pour terminer avec un petit chiffre, Paribas dit que... Alors Paribas représente 41% dans le mix mondial des investissements liés au charbon. Donc la banque dite française a un impact énorme sur la pollution. Et c'est pas la Chine qui a un impact énorme. Ce sont bien les banques et notamment BNP Paribas. Voilà ce que dit le rapport, vous pouvez le lire. C'est en néerlandais, c'est plus compliqué. Il vaut mieux lire les résumés en français.
Alors moi, je me suis intéressée au MEDEF. Parce que la COP21, si vous savez, c'est un peu comme la coupe du monde de rugby, c'est-à-dire que tout le monde doit en être. Donc bientôt, je pense qu'on va trouver ce logo tous ensemble pour le climat sur tous nos pots de yaourt, hein, et nos boîtes de petits pois, parce que c'est un peu l'image que ça donne. Alors le MEDEF, évidemment, nous a sorti quelque chose. Il nous a sorti un beau 4 pages. En haut de ce 4 pages, sur la première page, hein, en haut à gauche, il y a marqué MEDEF, développement durable. Hein, déjà, je me suis dit merde.
Non, mais c'est leur propre développement qui doit être durable.
Bien sûr, bien sûr. Alors, ça s'appelle donc le titre manifeste du MEDEF. Sous-titre, opportunité, responsabilité, compétitivité. Un beau slogan. Pour que la Terre garde ses couleurs, les entreprises s'engagent pour le climat. Là, je me suis dit, merde, c'est que la première page. Alors, on n'est pas naïf, hein, dans cette émission. On se doute bien que le MEDEF...
va faire du greenwashing.
Ouais, enfin bon, le climat pouet. Et puis que surtout, il y a une affaire de pognon et de gros sous derrière. Alors effectivement, sur la deuxième page, on nous dit « Le changement climatique est un défi sans précédent auquel les entreprises répondent avec ambition et pragmatisme. »
Il ne parle pas de Peugeot, là.
Retour du pragmatisme, hein. On vous en avait pas parlé, hein. Le pragmatisme, le fameux pragmatisme français. Plus loin, car ne nous y trompons pas, si les entreprises s'engagent dans la lutte contre le changement climatique conformément à l'objectif de responsabilité sociétale, oui, je sais, tu rumines.
Je pense à Total, grandes entreprises françaises.
Nous devons collectivement considérer ce combat pour l'avenir comme une immense opportunité pour notre pays, une opportunité fantastique de créer de la croissance et des emplois sur notre territoire. Eh oui, le MEDEF a tout compris. Alors donc, nous avons un manifeste en 10 points. Alors bon, c'est pas des engagements, d'accord? Il n'y a pas le mot engagement.
Oui, non mais ils sont pas cons, au MEDEF. Hein.
C'est un 4 pages.
Ils ne vont pas s'engager à quelque chose.
Alors, bon, je vais vous passer les points 1 et 2. Alors ce qui est intéressant, c'est les points 3 et 4, où on ne sait pas bien ce qu'ils manifestent. Puisque le MEDEF salue le rôle que joue la France dans le point 3. Et puis dans le point 4, à cet égard, le MEDEF se félicite que la France dispose de plusieurs filières d'excellence œuvrant de longue date pour une économie à faible émission, en combinant les apports de grands groupes et ceux des PME.
Les faibles émissions, c'est la propagande pro-EDF. Ça, je le sens venir et arriva, là, puisqu'ils sont pro-nucléaires, hein, parce qu'ils parlent pas de Total, de Peugeot, tout ça, parce que eux, c'est l'inverse.
Non, mais c'est surtout que, bon, ça se jette un peu des fleurs, hein, là, quand même, hein, vous avez remarqué. Mais, alors, dans le point 5, on nous parle évidemment de compétitivité qui est essentielle, hein, c'est important. C'est un enjeu, hein, le climat, et oui, c'est un enjeu financier, bien évidemment. Alors, moi, ce que j'aime, c'est le point 10. Je vais vous le lire. Le point 10, qui est le dernier, donc, vous aurez suivi, le défi est immense, mais il n'est pas insurmontable. Nous devons le relever si nous ne voulons pas léguer à la jeunesse et aux générations qui suivront une dette climatique, réalisme économique et rigueur d'une part, créativité et audace d'autre part, sont les principes d'action à conjuguer pour y parvenir. Vous avez bien entendu réalisme économique, rigueur, créativité, audace, ça c'est le MEDEF.
On est foutu quand même.
Pour l'écologie, pour le climat, pour nous, pour la jeunesse, vous l'avez entendu. Merci, merci. Monsieur Gattaz était d'ailleurs à Lyon aujourd'hui.
Bon, on va rester dans la propagande et toutes ces entreprises capitalistes qui nous mentent avec la suite des prix Pinocchio qui est donc ces prix hein, sur Pinocchio, pourquoi ? Parce que c'est des grands menteurs. Donc, y a particulièrement dans le prix Pinocchio de cette année des entreprises qui sponsorisent cette fameuse COP 21, parce que ce sont beaucoup d'entreprises polluantes, notamment EDF, ainsi que Engie. Vous savez, Engie, c'est le nouveau nom là de Suez Environnement, GDF, là, je sais pas quoi, qui pourtant sont des entreprises qui investissent massivement dans le charbon, dans les gaz de schiste, hein, comme Engie a été pris sur le fait récemment. Donc eux aussi, ils essayent de nous mettre leur vernis vert là pour faire croire qu'ils sont écolos. Alors EDF a toujours la même habitude. Vous savez, EDF, ils disent, grâce au nucléaire, on a une source d'électricité sans CO2. Bon, je vous refais pas la démonstration que j'ai fait il y a pas longtemps dans un Canu Info suite à un rapport que le nucléaire n'est pas du tout sans CO2, hein, malheureusement. Malheureusement, mais en tout cas c'est un vrai mensonge. Pour être sans CO2, il faut sortir hein, du nucléaire. Et on notera donc suite à tout ça, à tous les mensonges véhiculés par EDF, il y a eu pas mal de réactions. Alors notamment parce que maintenant ils sont officiellement partenaires officiels d'un monde bas carbone. Donc un monde avec moins d'émissions de gaz de dioxyde de carbone. Donc ils veulent faire croire, grosso modo, comme d'habitude, que le nucléaire est un atout contre le changement climatique. Or, on sait hein, que c'est bien évidemment faux. Le rapport, c'est WISE Paris. Si vous le cherchez sur Internet, WISE, c'est WISE. Vous avez le rapport en entier qui démontre que le nucléaire émet du CO2 et n'est pas bon pour le réchauffement climatique. Voilà. Et qu'en plus, il y a toutes les conséquences indirectes. Comme cette technologie est très coûteuse et très lourde en investissement, elle limite très fortement les investissements dans l'efficacité énergétique et dans les énergies renouvelables. Hein, c'est entre autres à cause de ça qu'en France, on a très peu de bâtiments bien isolés suite à la propagande d'EDF de ces nombreuses années et à l'électricité artificiellement moins chère qu'ailleurs, puisque le vrai prix de l'électricité n'est pas payé par les consommateurs qui sont chez EDF grâce à différentes ristournes dont on a déjà parlé ici, notamment le fait qu'ils soient dispensés d'assurance pour les réacteurs nucléaires. Donc là, il y a eu une réaction du réseau Sortir du Nucléaire et de pas mal d'associations qui ont déjà porté plainte. Alors, ils avaient déposé plainte en mai, en fait, auprès du jury de déontologie publicitaire au sujet d'une publicité où EDF prétendait produire 100% d'électricité sans CO2. C'est pas mal, alors ils ont des centrales à gaz et à charbon, mais enfin bon, après, on peut les croire. Suite à cette plainte, le jury de déontologie publicitaire avait reconnu que cette formulation était susceptible d'induire en erreur quant aux réels impacts écologiques des actions d'EDF. En gros, ils avaient menti. Hein. Fort de cet avis, le réseau Sûreté Nucléaire avait décidé donc d'aller devant le tribunal de grande instance de Paris pour publicité trompeuse, puisque l'autorité de régulation de la publicité disait qu'effectivement c'était pas clair le message, grosso modo, qu'il y avait tromperie. On va voir ce qui va se passer. La plainte a été déposée le 23 septembre. On notera que le jury de déontologie publicitaire doit aussi se prononcer sur une autre campagne où EDF dit maintenant produire 98% d'électricité sans CO2. Bon, ça a changé, c'est passé à 98. Bizarrement, d'une pub à l'autre, ça change les chiffres avec EDF. Ils doivent pas savoir calculer. Oui, ils disent que quand ils se sont fait choper, ils font un mensonge moins gros, en se disant le mensonge moins gros, il passera. Mais ça reste du mensonge, le mensonge moins gros. Donc voilà, on aura peut-être des nouvelles judiciaires pour EDF qui continue bien évidemment de mentir sur le problème nucléaire, en dehors des risques d'accident, du problème des retraitements des déchets. Le nucléaire continue d'avoir un impact sur le réchauffement global et le réchauffement local. On vous rappelle qu'EDF réchauffe l'eau des rivières avec de l'impact sur les populations, notamment de poissons, et sur la vie des rivières, et que à l'avenir, avec les grosses augmentations de chaleur qu'on va avoir, notamment dans la région Rhône-Alpes, suite au réchauffement climatique, si vous voulez tout savoir, je vous laisse lire le dernier numéro de Science et Vie, où ils étudient région par région l'impact du réchauffement climatique. C'est assez bien fait. Du coup, on a une idée de ce qui peut se passer. On risque d'avoir des problèmes. Il va falloir donner des dérogations à EDF pour qu'ils puissent continuer de réchauffer l'eau des fleuves, notamment l'eau du Rhône, avec des conséquences sur l'environnement direct et local qui sont pas négligeables du tout. Donc voilà, pour dire que Radio Canu n'achète bien évidemment pas d'électricité nucléaire à EDF. Nous sommes chez la seule coopérative qui fournit de l'électricité 100% renouvelable. On termine ce Canu Info. Je crois que c'est la fin. Il nous reste 5 minutes, donc on va avoir le temps de parler un petit peu du festival Novembre Libertaire 2015. Avant, ça s'appelait On s'installe partout. Je crois que c'est peut-être toujours ce nom-là. Donc, ça a commencé, on va dire, fin octobre, voire début novembre pour les premières grosses actions. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 novembre et projeté ce soir une histoire populaire des États-Unis de Howard Zinn. C'est donc un... Alors j'ai jamais vu moi le film, mais j'avais lu les BD tirés des bouquins d'Howard Zinn. C'est une version de l'histoire des États-Unis d'Amérique avec tout l'impact que ça peut avoir sur l'international, qui est vraiment très bien faite, beaucoup plus réaliste que souvent une histoire un peu retravaillé. C'est une histoire vraiment militante et intéressante, donc le film a l'air intéressant lui aussi. Donc c'est organisé par la Fédération anarchiste, et c'est à la MJC du Vieux Lyon, donc la projection commence dans quelques minutes, si vous n'êtes pas loin, c'est Place Saint-Jean dans le 5e. Demain, c'est au tour de la Tunisie avec une rencontre soirée débat qui a l'air très intéressante. Ça s'appelle Tunisie, la révolution face au fondamentalisme. On sait que la révolution tunisienne, c'est la seule qui est pour l'instant arrivée à accoucher de quelque chose qui ressemble un peu à une amélioration des libertés, même si on est encore loin d'un idéal, et c'est ce que disent les Tunisiens qui se battent pour la liberté. Donc demain, rencontre avec notamment Mohamed Amani, qui est auteur de Tunisie, de point la révolution face à la mondialisation des fondamentalismes contemporains. C'est à l'atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu, dans le 7e. On continue dans la même thématique, samedi, anarchisme et islam, avec Wahed Messaoud et Daniel Colson. Ça sera à la librairie La Griffe, 5 rue Sébastien Griffe, dans le 7e, à 15h. Je connais pas Wahed Messaoud, mais Daniel Cosson, c'est un anticlérical, un antireligieux, donc il aura sa vision de l'anarchisme, anticlérical et antireligieux de l'anarchisme face à l'islam, notamment qui est la religion dont on parle beaucoup, mais qui ne fait surtout pas oublier les autres religions qui sont pas plus défendables les unes que les autres. Et ils reviendront du coup sur la différence entre sunnites, chiisme, ces guerres interreligieuses, puisque du coup la plus grosse guerre actuellement dans le monde, c'est bien cette guerre entre les sunnites et les chiites. Samedi, porte ouverte au LOL. Alors le LOL, ça se situe 7 places Chazette, on sera dans le premier arrondissement de Lyon, à 14h jusqu'à 23h. Vous découvrirez ce que c'est que le LOL, j'en ai aucune espèce d'idée là maintenant. Toujours samedi, et on terminera... Oh non, on va... Non, on a encore 2-3 autres choses à annoncer quand même. Le samedi 7 novembre, donc ça s'appelle Commun Urbain, des poèmes et des contes de la ville, de notre ville, par Vincent Villanueva et Lionel Perrin. C'est à la librairie La Griffe, à partir de 19h, donc c'est suite à l'après-midi. Sur l'anarchisme et l'islam, donc à Libré la Griffe, 5 rue Sébastien Griffe, dans le 7e. Dimanche, il y a une présentation de l'Antifa Fest par la Galle, donc ce sera à Libré la Griffe à 15h. Il y a beaucoup de choses hein, dans ce Lyon Antifa. Ensuite, on passe ce Lyon Antifa, ce novembre libertaire. Et je terminerai par cette dernière info. Mercredi 11 novembre, une projection débat autour du livre « Trop jeune pour mourir, ouvrier et révolutionnaire face à la guerre ». C'est une autre époque, mais qui est intéressante à étudier, sur l'obligation notamment qui était faite à la jeunesse d'aller se battre pour notamment enrichir les capitalistes français qui fabriquaient des armes. On est entre 1909 et 1914, Première Guerre mondiale. Donc il y aura la présence de l'auteur, Guillaume Davranche. C'est là aussi à l'atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu, dans le 7e, à 19h, mercredi 11 novembre. Alors c'est intéressant que ça tombe le mercredi 11 novembre, mais c'est sûrement pas fait par hasard, puisque c'est le jour où les pro-guerres commémorent cette horrible guerre. Voilà, c'est à l'armistice du 11 novembre, mais c'est le jour aussi où il faut se rappeler qu'il faut continuer de lutter contre toutes les guerres, sauf la guerre des classes, hein, puisqu'il nous restera celle-là tant qu'on nous n'aurons pas gagné, hein, finalement. Puisque pour l'instant,
non, mais on les aura.
On est plutôt en train de perdre.
On les aura.
Pour reprendre la parole d'un milliardaire célèbre qui disait que la guerre des classes existe bien et que eux, les milliardaires, sont en train de la gagner. Bon, nous, on résiste encore un petit peu. Voilà, il nous reste une petite minute pour vous souhaiter une bonne et agréable soirée sur l'antenne de Radio Canu et peut-être où dans la soirée du novembre libertaire autour du film d'Howard Zinn sur l'histoire des États-Unis à la MJC, qui est dans donc Saint-Jean. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine, 19h-20h, pour le prochain Canu Info du jeudi, et demain pour le prochain Canu Info, qui sera donc du vendredi. Vous avez suivi, c'est très bien.
Bonne soirée à vous. Souriez, soupirez, vous verrez, ça ira mieux.
Bye bye.
Ciao.